France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Carlos Ghosn s'exprime pour la première fois depuis son incarcération. L'ancien patron de Renault dénonce depuis sa prison japonaise un complot de la part des dirigeants de Nissan.
Washington et Pékin reprennent leurs négociations commerciales. Les deux puissances mondiales se disputent la position dominante dans les futures industries de haute technologie. Et ce, au moment même où une série d'inculpations vise le géant des télécoms chinois Huawei.
Les négociations sur le Brexit butent à nouveau sur la question irlandaise. Les Britanniques veulent éviter le rétablissement d'une frontière entre les deux Irlandes. Mais Bruxelles ne veut pas renégocier ce backstop.
L'actualité française aussi dans votre journal, Antoine Maret, avec la croissance qui s'enraye. Selon l'INSEE, la hausse du produit intérieur brut a plafonné à 1,5%. Un mauvais chiffre dû à l'essoufflement de l'activité mondiale et la faible consommation.
L'invité de ce journal sera le secrétaire général de la Fédération des Finances CGT, Alexandre Derigny. Avec lui, nous évoquerons le prélèvement à la source que les Français expérimentent ces jours-ci pour la première fois. Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Olivia.
Faisons-nous encore la guerre. Et qu'est-ce que la guerre, telle qu'on l'entend aujourd'hui? Nous rejoindra dans la deuxième partie de la Grande Table l'anthropologue Catherine Haas qui signe un vaste livre, Aujourd'hui, la guerre chez Fayard, où elle revient sur les usages de ce terme, sa pensée, l'histoire aussi de la guerre pour comprendre les enjeux contemporains.
On vous retrouve dans 23 minutes. Carlos Ghosn est donc sorti de son silence. Celui qui n'est désormais plus le patron de Renault a donné sa toute première interview depuis son incarcération pour le quotidien économique japonais Nikkei. Depuis sa prison, Carlos Ghosn se dit victime d'un complot de la part des dirigeants de Nissan. Selon lui, ceux qui ont œuvré à sa perte étaient opposés à son projet d'intégration entre Renault et ses alliés japonais. À Tokyo, la correspondance de Frédéric Charles.
Carlos Ghosn dit avoir aucun doute que les accusations portées contre lui sont la conséquence d'un complot et d'une trahison de la part des dirigeants de Nissan. Pas plus tard qu'en septembre dernier, il avait parlé avec son successeur, Hiroto Saikawa, l'actuel patron de Nissan, de son projet d'une holding commune. Mais les dirigeants de Nissan étaient opposés à une intégration plus poussée entre nous et les deux partenaires japonais de l'Alliance, Nissan et Mitsubishi. C'est la première fois que Carlos Ghosn déclare que cette intégration, une fusion totale selon le journal Nikkei, voulue par le gouvernement français, inclut aussi Mitsubishi. Nissan réagit aussitôt, rappelle que son patron, Hiroto Saikawa, a toujours réfuté la notion de coup d'État. Son règne de 19 ans à la tête de Nissan ne relève pas de la dictature, s'insurge Carlos Ghosn. Les gens ont déformé la réalité pour se débarrasser de moi.
Les deux premières puissances économiques mondiales reprennent leurs négociations commerciales dans un climat très tendu. Les États-Unis et la Chine se disputent la position dominante dans les futures industries de haute technologie, et ce, au moment même où une série d'inculpations vise le géant des télécoms chinois Huawei et l'un de ses dirigeants. À Pékin, la correspondance de Dominique André.
Signe que les négociations entrent dans une phase décisive, la délégation chinoise comprend une trentaine de responsables placés sous la direction de l'économiste Liu He, vice-premier ministre et homme de confiance de Xi Jinping. À un mois de la fin de la trêve commerciale, la Chine met en avant les efforts qu'elle a déjà réalisés, comme la baisse des taxes sur les automobiles importées. Une loi sera votée aussi en mars pour interdire les transferts de technologies forcés et les interférences du gouvernement dans les pratiques commerciales étrangères. Mais les négociations s'annoncent bien difficiles. Personne ne pourra empêcher la Chine de développer son économie, dit-on à Pékin. Certaines demandes essentielles de Donald Trump ne peuvent être satisfaites, affirme l'expert Wang Fujong de l'Université centrale des finances.
Trump demande que les entreprises américaines qui travaillent en Chine soient traitées de la même manière qu'aux États-Unis. Ce n'est pas possible de faire la même chose en Chine. Pourquoi? C'est très simple. En Chine, il y a des entreprises publiques et il y a des choses qui ne sont permises que pour ces entreprises publiques. Les entreprises privées ne pourront jamais avoir les mêmes droits. Dans les autres pays, une entreprise étrangère a le droit d'investir seule. En Chine, le co-investissement avec un partenaire chinois est obligatoire. Trump n'atteindra jamais son but. Mais pour ces autres demandes concrètes dans le commerce, par exemple que la Chine achète plus de produits américains tels que le soja ou les avions, ce n'est pas un problème. Mais ces demandes d'égalité, ce n'est pas réalisable.
La délégation chinoise doit rester quelques jours à Washington. Liu He sera reçu par le président américain.
Les députés britanniques avaient appelé hier à renégocier le backstop nord-irlandais, cette clause de sauvegarde pour éviter le rétablissement d'une frontière entre les deux Irlandes. Eh bien, la réponse de Bruxelles est tombée, c'est un non. La présidente du Conseil européen a expliqué qu'il n'était pas question de renégocier ce backstop. Bonjour Angélique Bois.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Les trajectoires de Londres et Bruxelles, on le voit, s'éloignent un peu plus.
Oui, et la perspective d'une sortie sans accord reste donc très forte. La Commission européenne s'est d'ailleurs penchée ce matin sur le statut, le futur statut des étudiants Erasmus. On se prépare ici. Alors, quelles pourraient être les marges de manœuvre des 27 pour discuter avec Theresa May si elle revient à Bruxelles? Ici, en fait, rien n'a changé. Pas question de revenir sur ce dispositif inventé pour éviter le retour d'une frontière dure en Irlande du Nord. Mais, on le rappelle, on est toujours ouvert à une négociation sur la relation future entre les 27 et le Royaume-Uni. Ce backstop n'avait été négocié que parce que Londres a choisi l'option d'un Brexit dur pour pouvoir mener à l'avenir une politique économique et commerciale totalement indépendante de l'Union. Si les liens restaient finalement étroits avec les 27, ils ne seraient plus d'actualité. On attend donc ici à Bruxelles des éclaircissements de la part de la Première ministre sur ce qu'elle compte réellement faire. Y a-t-il une marge de manœuvre sur les conditions dans lesquelles le filet de sécurité peut s'appliquer? Absolument pas, officiellement en tout cas. Des dispositifs alternatifs avaient bien été évoqués lors de l'interview. Interminable négociation de l'accord de retrait, mais sans convaincre. Un codicille à la déclaration politique jointe à ce traité pourrait sans doute être discuté, mais tout cela n'aurait pas de valeur juridique. Or, c'est ce que veut chercher Theresa May en revenant à Bruxelles.
Merci Angélique Bouin. Theresa May et Donald Tusk vont donc s'entretenir dans la journée, notamment au sujet de ce backstop. On pourrait traduire ce mot en français par clause de sauvegarde ou encore filet de sécurité. C'est un sujet très sensible qui bloque donc l'accord de divorce entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Car dès le début des négociations, Theresa May a posé deux conditions. Pas de frontières dures entre les deux Irlandes, pas de discontinuité au sein du Royaume-Uni. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres et aujourd'hui donc ces deux exigences semblent irréconciliables.
C'est un problème totalement insoluble. Oui, avec le Brexit, l'Irlande du Nord va sortir du bloc européen, alors que la République d'Irlande, au sud, va continuer d'en faire partie. Il faut donc, théoriquement, rétablir une frontière. Frontière que tous les dirigeants britanniques et européens refusent de reconstruire par peur de raviver les tensions entre protestants et catholiques qui ont fait plus de 3000 morts au total. Les accords de paix de 1998 prévoient d'ailleurs une libre circulation des biens et des personnes entre Belfast et Dublin. C'est donc pour éviter les barbelés et les postes de douane que Theresa May a négocié avec Bruxelles ce dispositif de backstop. Il est conçu comme une sorte d'assurance. Soit le Royaume-Uni signe un accord commercial dans les années qui viennent avec l'Union européenne et il n'y a plus besoin de frontières, donc plus de problèmes. Soit on active le filet de sécurité qui oblige le pays à rester dans l'Union douanière avec l'Irlande du Nord alignée sur les réglementations de Bruxelles. C'est là ce que redoute une partie des députés. Pour eux, ce serait comme annuler le Brexit, et s'ils ont soutenu hier l'amendement qui donne la possibilité à Theresa May de renégocier ce backstop, ce système qui a été établi avec Bruxelles, c'est parce qu'ils ont peur de rester bloqués indéfiniment dans l'Union européenne. Ils réclament de leur côté un dispositif alternatif, mais malgré tous les efforts pour imaginer un système informatique d'enregistrement à distance des marchandises et des voyageurs, personne, absolument personne, n'est aujourd'hui capable de dire comment cette solution pourrait fonctionner.
Merci Antoine Gignot. L'opposition vénézuélienne s'apprête à descendre à nouveau dans la rue aujourd'hui pour réclamer le départ de Nicolas Maduro. Le président tente de son côté de faire baisser la pression. Il est prêt à des législatives anticipées, mais il ne veut toujours pas remettre son mandat présidentiel en jeu. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Est-ce que cette proposition faite par Nicolas Maduro est de nature à apaiser la colère de l'opposition?
En fait, le pouvoir et l'opposition vénézuélienne s'affrontent à coups de déclarations à la presse étrangère et sur le terrain de la mobilisation populaire. Politiquement et diplomatiquement, après les menaces de sanctions de l'UE, Nicolas Maduro assure être prêt à organiser des élections législatives au plus tôt, à dialoguer avec l'opposition pour le bien du pays. En revanche, il rejette la remise en cause de son mandat. La dernière présidentielle a eu lieu il y a 10 mois, explique Nicolas Maduro. Si les impérialistes en veulent une nouvelle, ils n'ont qu'à attendre 2025, fermer les guillemets. Le dirigeant socialiste en profite pour accuser Donald Trump et la Colombie de vouloir l'assassiner, pour juger illégales les sanctions américaines contre l'entreprise pétrolière PDVSA, source de 96% des revenus du Venezuela. Et Maduro ose remercier la Russie de son soutien politique, militaire et économique. Moins de 15 jours après le début de son second mandat, Nicolas Maduro a été ouvertement défié par le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, qui le 20 3 janvier, s'est proclamé président par intérim, aussitôt reconnu par les États-Unis. L'opposant estime dans le quotidien Bild que son pays est une dictature qui a besoin de plus en plus de sanctions de la part de l'Union européenne contre le régime en place. Ses partisans vont descendre dans les rues aujourd'hui et à ce propos, les manifestations de ces dernières semaines ont fait une quarantaine de morts, 700 personnes ont été arrêtées, il y a au moins 300 prisonniers politiques. Reste à savoir comment vont se dérouler les défilés d'aujourd'hui et les suivants et de savoir si c'est la rue qui aura le dernier mot.
Midi passé de 41 minutes sur France Culture. Dans l'actualité française, la croissance s'enraye. Selon l'INSEE, la hausse du produit intérieur brut a plafonné à 1,5%. Un mauvais chiffre dû à l'essoufflement de l'activité mondiale et la faible consommation. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Antoine.
C'est une source d'inquiétude pour 2019 alors que le pays n'est toujours pas sorti de cette crise des gilets jaunes.
Oui, alors 1,5% alors que le gouvernement tablait sur 1,7% qui avait déjà revu ses prévisions à la baisse. Oui, la croissance, après des signes encourageants de 2017, retrouve son rythme décevant de début d'année 2018. Alors si on regarde les chiffres de la consommation, on note un chiffre au dernier trimestre, donc 0,8% sur l'ensemble de l'année pour la consommation. C'est proche de ce qu'on avait en période d'austérité, fait remarquer l'OFCE. Un point de croissance, c'est faible, mais c'est surtout qu'on ne sent pas de dynamique. On s'attendait à une accélération du pouvoir d'achat avec la baisse de la taxe d'habitation. On ne l'a pas vu. Les ménages n'ont pas retrouvé la confiance, ils n'investissent plus. S'ils gagnent du pouvoir d'achat, ils épargnent. Du côté des entreprises, c'est un peu aussi atone. L'investissement se maintient quand même avec une hausse de 3,8% en 2018, après les 4,4% enregistrés en 2017. Les exportations sont en légère progression. C'est d'ailleurs le commerce extérieur qui a soutenu l'économie en fin d'année dernière, mais là encore, il était sur l'élan de 2017. Bon, tout ça s'inscrit donc dans un contexte d'essoufflement de l'activité mondiale, les tensions commerciales entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, l'incertitude du Brexit. Même l'Allemagne n'attend pas plus d'1% de croissance cette année. Une récession mondiale n'est pas pour autant au coin de la rue, dit-on au FMI. En France, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui veut rester optimiste, assure que l'activité dans l'Hexagone reste solide. L'année 2019 commence à peine, mais si le prix de l'énergie et du pétrole continue d'augmenter, la construction de reculer, ça ne va pas être facile, ni pour l'économie, ni pour le climat social. Et ça se voit quand même déjà dans le moral des Français.
Merci Annabelle Grelier. Deux policiers jugés aux assises de Paris pour le viol d'une touriste canadienne dans les locaux de la police judiciaire. Les faits incriminés se seraient déroulés donc en avril 2014 au fameux 36 quai des Orfèvres. Bonjour Florence Turm, vous Bonjour. Suivez pour nous ce procès. Ce matin, c'était les réquisitions de l'avocat général. 7 ans ferme requis contre les deux policiers.
Oui, je les regarde, 2-3 mètres, pas plus, séparent Emily Spanton de ceux qu'elle accuse de viol en réunion, 2-3 mètres qui constituent toujours un océan infranchissable, tant leurs versions sont irréconciliables. Le préambule résume à lui seul ces 2 semaines de procès, alors l'avocat général va s'attacher à livrer aux jurés son intime conviction. Attention, prévient-il, pas une pièce de monnaie que l'on lance en l'air, mais un fil d'Ariane que l'on trace et qui doit être guidé par la raison. Alors méthodiquement, Philippe Courroy entreprend de décortiquer 2 versions. D'abord, la dénonciation d'Emily Spanton, immédiate, constante, parfois imprécise, sans doute à cause de l'alcool et du cannabis. Mais les témoins ont tous décrit une femme en pleurs, en état de choc. Elle a toujours désigné les 2 policiers. Assis l'un derrière l'autre, les 2 accusés écoutent sans broncher, la tête légèrement baissée. Et le ton de l'avocat général devient plus accusateur, ironie grinçante parfois, quand ils pointent leur comportement au pub, leur consommation d'alcool, quand ils sont normalement en service ce soir-là. Mais surtout, assène Philippe Courroy et il s'approche des jurés, ses versions recèlent des dissimulations évidentes, des incohérences manifestes. Il revient sur les différentes auditions, les SMS cachés, la vidéo effacée des téléphones portables et les expertises gênantes. Ils ont, conclu Philippe Courroy, déshonoré leur unité en agissant comme des soudards. Votre verdict montrera que la loi s'applique à tous, même aux policiers. Je vous demande de les condamner pour viol en réunion à 7 ans d'emprisonnement.
Merci à vous, Florence Turm. Le non-cumul des mandats a du plomb dans l'aile. La question revient sur le devant de la scène par l'intermédiaire du grand débat national. 2 ans après l'entrée en vigueur de la mesure votée sous François Hollande, certains voient dans la crise des gilets jaunes des parlementaires trop peu en prise avec le terrain. Bonjour Rosélie Lafarge.
Bonjour.
Des élus s'appuient là-dessus pour réclamer le retour des députés-maires.
Cette question, les maires l'ont fait remonter en Normandie à Grand-Bourtroule. Premier déplacement d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat, le président président est interrogé sur ce sujet et s'il précise tout de suite que l'idée n'est pas à la mode, voilà ce qu'il ajoute.
Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la première génération de parlementaires qui n'ont que ce mandat-là. Quand on regarde les choses, ils n'ont pas une vie plus simple que leurs prédécesseurs, hein, parce qu'ils passent en fait beaucoup plus de temps au Parlement. Mais moi, je suis assez partisan d'une idée où on redonne du temps aux législateurs pour aller sur le terrain. Est-ce qu'il faut en même temps lui permettre de réavoir des mandats locaux, en tout cas dans une certaine proportion, sans être dans des exécutifs de premier plan? Peut-être. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai le projet d'y revenir demain. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de tabou sur ce sujet non plus, parce qu'il faut trouver les moyens pour que notre démocratie respire comme il se doit.
Une proposition de loi portée notamment par plusieurs députés de droite a d'ailleurs été déposée pour rétablir le cumul des mandats, parce que l'interdire, c'est créer des parlementaires hors sol, pense-t-on du côté des LR par exemple, de Christian Jacob à Valérie Debord, en passant par le président du Sénat, Gérard Larcher.
Est-ce que être efficace, c'est couper les élus du Parlement du territoire? Non, mais... et questionner une erreur majeure, qui était très à la mode il y a 6 ans. L'idée que quelqu'un qui détient un mandat exécutif territorial ne puisse pas être parlementaire est en train de construire une déconnexion. Et c'est un sujet qui mérite d'être interrogé à nouveau.
Qui en tout cas suscite de l'intérêt jusqu'au sein de la majorité, la question mérite sans doute d'être creusée pour les petites villes, estime le ministre Marc Fesneau dans l'Opinion ce matin. Le député En Marche, Benoît Simian, plaide lui pour le retour du député maire dans les communes de moins de 10 000 habitants en zone rurale. Mais quand même, revenir sur le non-cumul des mandats, c'est revenir sur une réforme qui porte le sceau du progressisme. C'est revenir aussi à la discussion sur le cumul des indemnités. Et en pleine crise des Gilets jaunes, là encore, cela promet des débats animés.
Merci à vous. Rosalie Lafarge. Midi 47 sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview de ce journal. Les Français expérimentent en cette fin de mois le prélèvement à la source. Le ministre du Budget a fait ce matin au Conseil des ministres un point sur sa mise en œuvre. Selon Gérald Darmanin, aucun bug à signaler, tout s'est bien passé. Les Français ont reçu ou reçoivent en ce moment même leur première fiche de paye amputée du montant de leur impôt sur le revenu. Nous recevons pour en parler aujourd'hui Alexandre Derigny. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la Fédération des Finances CGT. Pour vous et les agents des impôts que vous représentez, la mise en place du prélèvement à la source est un succès ?
Il est beaucoup trop tôt pour le dire, contrairement à ce que peut annoncer sans cesse Gérald Darmanin depuis ces derniers jours. Il nous paraît complètement invraisemblable de déjà décréter que le prélèvement à la source est un succès aujourd'hui, alors même qu'il n'a pas réellement commencé.
Question de Marie Viennot du service économique de France Culture.
Alors pour le moment, effectivement, l'argent a été pris sur les bulletins de salaire. Il faut maintenant que les entreprises le reversent à l'État.
Oui, alors déjà, ça a été pris sur les bulletins de salaire et sur les pensions des retraités, non sans déjà un certain nombre de bugs et de problématiques. S'agissant de cette première question, le sujet, ça ne se joue pas au mois de janvier lors du prélèvement, ça va jouer au fur et à mesure de l'année où un certain nombre de rectifications vont devoir être apportées et des problèmes vont venir s'empiler les uns aux autres. Et comme vous le dites, il y a un deuxième enjeu majeur s'agissant du prélèvement à la source. On avait en France un taux de recouvrement de environ 99% de l'impôt sur le revenu, puisque l'impôt sur le revenu était donc recouvré par l'État. Aujourd'hui, eh bien, l'enjeu du prélèvement à la source est de ne pas voir ce taux s'effondrer dès lors qu'il y a un tiers collecteur, c'est-à-dire, pour faire simple, beaucoup d'entreprises, les caisses de retraite, qui viennent s'ajouter aux autres collecteurs d'impôts.
Alors on a déjà un exemple, c'est celui de la TVA, où les entreprises sont aussi tiers collectrices. Est-ce que c'est un exemple qui vous donne espoir ou pas ?
C'est un exemple qui nous fait frissonner. Ça nous fait frissonner à plus d'un titre. D'abord pour les finances publiques, puisqu'on a un taux de recouvrement de 20 points inférieur à celui de l'impôt sur le revenu.
Pour la TVA ?
Pour la TVA, donc ça peut faire peur aux contribuables, puisque cet argent qui ne va pas rentrer dans les caisses de l'État, il faudra bien le trouver ailleurs. Donc c'est vraiment un véritable sujet. Et puis ça nous fait peur aussi en tant qu'agent des finances publiques, puisque ça demande un travail extrêmement important d'aller rechercher cet argent qui ne rentre pas, puisqu'il y a des entreprises qui peuvent avoir des démarches qui sont frauduleuses, mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui vont simplement être défaillantes, puisqu'elles vont avoir des problèmes de liquidité, ce qui demande beaucoup de travail aux services fiscaux. Donc ça aussi, ça nous fait peur, puisque contrairement à l'idée reçue qui pourrait laisser penser qu'un prélèvement à la source opéré par des tiers collecteurs libérerait du temps de travail pour les agents des finances publiques, c'est en fait exactement l'inverse. Ça va générer beaucoup plus de travail dans les centres des finances publiques.
Alors cette réforme du prélèvement à la source, elle se veut technique. Il n'y a pas de modification de la fiscalité à l'occasion de cette réforme. Mais est-ce que vous y voyez quand même les prémices de changements plus substantiels sur la fiscalité ?
Alors oui, c'est ce qu'on déplorait justement. C'est une réforme qui est technique, qui est très compliquée, hein, puisque dès lors que les contribuables vont avoir un changement de situation de famille, un changement dans leur vie professionnelle, à chaque fois ils vont devoir se retourner vers le centre des impôts, qui va devoir recalculer le taux d'imposition, qui va devoir le transmettre à l'entreprise, qui va devoir le prendre en compte. Je vous passe des sujets qui vont encore être plus épineux pour, par exemple, des personnes qui peuvent avoir plusieurs employeurs ou qui changent régulièrement d'employeur. Ça va être une gymnastique extrêmement compliquée pour les contribuables, pour également les centres des finances publiques, comme la gestion, par exemple, des crédits d'impôt. Les niches fiscales ont totalement explosé dans notre pays, d'ailleurs dans l'ensemble des régimes fiscaux. Et ça aussi, ça va devoir être géré un an après par le biais de la gestion des déclarations d'impôts. Donc ça va être très compliqué. Nous, notre crainte, c'est que cette espèce d'usine à gaz un peu ingérable aboutisse à la conclusion politique suivante, c'est beaucoup trop compliqué, donc on va transformer, on va simplifier le système fiscal. Il y avait déjà des velléités, par exemple, de fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. Il y a aussi une petite musique que l'on peut entendre et que l'on peut d'ailleurs même entendre dans le grand débat lancé par le président de la République. Est-ce que ça ne serait pas plus juste, après tout, si on avait un taux d'imposition identique pour chacun ?
Donc l'impôt proportionnel et non pas l'impôt progressif tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire que dont le taux augmente en fonction de ses revenus. Sur ce grand débat, justement, c'est le thème 2 du grand débat, c'est la fiscalité et les dépenses publiques. Comment vous trouvez que le débat est posé par le gouvernement ?
Ben, nous, on trouve que le débat est un peu biaisé. Et c'est là tout le sujet pour une problématique aussi essentielle et aussi fondamentale dans ce grand débat qu'est la fiscalité. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on n'a pas réellement le choix. Il va falloir choisir entre soit j'ai une réduction d'impôts et je baisse ma fiscalité, ou alors je dis adieu à un certain nombre de services publics dont j'ai besoin. Donc moi, je pense que c'est réellement pas très sérieux de poser la question comme celle-là, surtout qu'il ne me semble pas que ça soit la volonté des Gilets jaunes. Et en tous les cas, il ne me semble pas que le peuple qui manifeste son mécontentement ait envie d'abandonner des services publics qui lui sont utiles, mais il a simplement envie d'un autre système fiscal qui soit plus juste, on aille justement chercher l'argent là où il se trouve.
Alors vous avez écrit, votre syndicat a écrit une lettre au président de la République justement par rapport à ce grand débat fiscal. Qu'est-ce que vous proposez ?
Mais nous, ce qu'on propose, c'est justement plus de justice fiscale. Vous le disiez avec la fiscalité. Nous, on est très attachés aux impôts progressifs, comme l'ISF, comme l'impôt sur le revenu, puisque c'est un fondement simple de notre République. C'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit grosso modo que chacun doit contribuer à hauteur de ses moyens. Et donc, nous, on estime que ce sont ces impôts qui devraient être réhabilités et donc aller, en quelque sorte, chercher l'argent là où il est. Là aussi, ce qu'on trouve inadmissible, c'est que le travail soit davantage taxé que le capital. Donc, ce que l'on souhaite, c'est aussi que la fiscalité puisse se rediriger vers le capital.
Merci.
Ensuite, et pour juste un dernier mot, c'est l'allègement des impôts proportionnels. On le peut d'un point de vue européen, c'est baisser par exemple le taux de TVA de 20 à 15 points, ou supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, ce qui rendrait réellement du pouvoir d'achat aux plus humbles.
Merci à vous, Alexandre Derigny, d'avoir accepté cette interview dans le journal de France Culture.
Merci à vous.
L'incendie qui a fortement endommagé les locaux de France Bleu Isère dans la nuit de dimanche à lundi, cet incendie a été revendiqué sur un blog anarcho-libertaire. Un message publié hier dénonce, je cite, « les industriels d'hypnose collective contre les fabricants de subjectivité consentante à la société existante ». Fin de citation. Le ou les auteurs du texte s'y félicitent de cet incendie. Cet après-midi, il va neiger sur la moitié nord et le centre du pays, de la pluie sur la façade atlantique et du soleil sur les côtes méditerranéennes. Température en dessous des normales saisonnières, comptez seulement 3 degrés à Paris, 6 à Cherbourg, 10 à Biarritz. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Aurélie Kiefer.